Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. La communauté israélite d'Égypte est très ancienne. Elle était déjà présente dans le pays sous les pharaons. Parfois très intégrée, parfois rejetée par le reste de la population, elle comptait encore plusieurs centaines de milliers de personnes au début du XXe siècle. Mais l'ascension de Nasser et les guerres contre Israël ont peu à peu forcé ses membres à l'exil. Aujourd'hui, il n'y aurait plus qu'une quinzaine de juifs en Égypte. Nous parlerons de cette communauté en extinction avec Aline Schlapfer, maître assistante à l'Université suisse de Genève, spécialiste des Juifs dans les pays arabes. Et nous écouterons Magda Haroun, la présidente de la communauté juive du Caire que Nicolas Falaise a rencontrée. À suivre également la revue de presse, Regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
C'est une communauté juive sur le point de disparaître. Les juifs d'Égypte ne sont plus qu'une poignée. Leur destin est emblématique de l'exode des juifs orientaux qui ont quitté les pays du monde arabo-musulman par centaines de milliers au cours des 50 dernières années, au rythme des conflits israélo-arabes. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Vous étiez en reportage au Caire pour RFI voici quelques semaines et vous êtes allé rendre visite à une gardienne de la mémoire, la présidente de la minuscule communauté juive de la capitale égyptienne.
Oui, et pour rencontrer Magda Haroun, nous avons rendez-vous à la grande synagogue du centre-ville du Caire, immense façade grise ornée de palmiers stylisés, un bâtiment centenaire protégé en permanence par des policiers. À l'intérieur, c'est Magda Haroun qui nous accueille. Égyptienne juive, elle garde les clés d'une synagogue désormais silencieuse. Il n'y a plus que 12 juifs au Caire, 12 femmes. Et à 62 ans, Magda Haroun est la plus jeune.
Nous sommes à la grande synagogue au centre-ville. En bas, c'était les hommes et en haut, les femmes. Moi, gamine, je jouais ici pendant que mon grand-père faisait la prière. J'ai plein de photos. Il y a des gens qui m'envoient des photos. Il y avait des mariages. Moi, je n'ai jamais assisté à un mariage dans cette synagogue. Je n'assiste qu'à des funérailles, malheureusement. Mais il y avait des mariages presque toutes les semaines. Il y avait des fêtes, il y avait des bar mitzvahs. C'était la grande synagogue.
Aujourd'hui, qui vient ici?
Personne. Elle est ouverte les jours de fête pour les quelques personnes qui sont là. Mais nous n'avons plus de rabbin. Je me débrouille pour faire la prière en français parce que j'arrive même pas à lire la translittération en hébreu. Et voilà.
La synagogue est impeccablement conservée avec tout son mobilier, ses vitraux, ses chandeliers et dans une armoire les rouleaux de la Torah qui dorment dans leurs étuis de bois ou de velours.
Une communauté juive en voie de disparition. Quand et pourquoi les juifs d'Égypte ont-ils quitté leur terre natale?
Alors les différentes vagues de départ coïncident avec les grandes dates des conflits israélo-arabes. Première guerre en 1948, dès la création de l'État d'Israël. 1956, c'est le conflit du canal de Suez. Et puis la guerre des six jours en 1967, Magda Haroun s'en souvient.
Le 5 juin 67, la guerre des six jours, tous les mâles juifs âgés de 18 à 60 ans, ont été internés, y compris mon père. Et ils sont restés 30 mois. Ceux qui ont tenu le coup sont restés 30 mois internés. Ceux qui n'ont pas tenu le coup sont partis et leur famille les a rejoints. C'est comme ça que, de moins en moins, on a eu des mâles juifs en Égypte.
Et ensuite, il y a encore eu la guerre du Kippour en 1973. Bref, une hémorragie de départ que la paix entre l'Égypte et Israël à la fin des années 70 n'a pas endiguée.
Il reste 12 juifs, 12 femmes juives au Caire aujourd'hui. Et parmi elles, donc, Magda Haroun, qui a choisi de rester.
Elle consacre toute son énergie à la défense d'une histoire et d'un patrimoine. Elle qui se sent totalement égyptienne.
C'est mon pays. Je vois pas pourquoi je le quitterais. Mon père ne l'a pas quitté. Mon grand-père ne l'a pas quitté. Et moi aussi, je ne le quitterai pas. J'ai vu partir toute ma famille. J'ai été éduquée par un papa avocat, communiste, égyptien, juif. Donc, il nous a imbibés de ses idées. Il n'y a pas une loi au monde qui oblige un être humain à quitter son pays. Ma sœur est décédée il y a 2 mois. Ma maman a 86 ans. Dans quelques années, je vais me retrouver vraiment seule. Et pourtant, je reste, parce que j'ai un devoir. Je suis le gardien de cet héritage juif-égyptien. Nous sommes en Égypte depuis le temps des pharaons, depuis plus de 4000 ans. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de juifs. Mais on doit marquer notre présence au fer rouge. On a été là, on a contribué à la vie de tous les jours, économique, politique, artistique. On a participé à la vie des Égyptiens. Nous sommes des Égyptiens juifs ou des Juifs égyptiens.
Magda Haroud est visiblement émue à chaque fois qu'elle referme l'immense porte en bois de la synagogue. La présidente de la communauté juive du Caire espère que l'héritage juif en Égypte sera préservé et même mis en valeur par les autorités du pays lorsque les juifs ne seront plus là, de la même façon que l'Égypte met aujourd'hui en valeur son patrimoine antique, celui des pharaons.
Un souhait que l'on ne peut que partager. Merci Nicolas Falaise pour cet émouvant reportage. Nous sommes maintenant en ligne avec Aline Stapfer, maître assistante à l'Université suisse de Genève. Bonjour madame.
Bonjour.
Spécialiste de la nation et des nationalismes chez les penseurs arabes modernes, spécialiste également des juifs dans les pays arabes, ce qui nous occupe aujourd'hui. Aline Stapfer, la présence des juifs en Égypte est-elle très ancienne ?
Alors oui, la présence juive est très ancienne en Égypte. Par l'archéologie et par les papyries d'Éléphantine, on sait que des Judéens et des Israélites sont établis en Haute-Égypte, précisément sur l'île d'Éléphantine, qui se trouve aujourd'hui en face de l'actuel Assouan, au 5e siècle avant notre ère. Et ils sont rejoints par une deuxième vague migratoire après la conquête de la Judée par Alexandre le Grand au 4e siècle. Et à ce moment-là, les Juifs sont profondément hellénisés. La Bible est traduite en grec, les prières sont également traduites et récitées en grec. Et c'est bien sûr la figure de Philon d'Alexandrie qui marque cette période très importante pour les Juifs d'Égypte.
Alors, plus près de nous, en 629 après Jésus-Christ, lors de la conquête arabe de l'Égypte, les Juifs optent pour les Arabes contre les Romains de l'Empire byzantin et en ont des nombres près de 40 000 rien qu'à Alexandrie. C'est incroyable.
Oui, en effet, le chiffre de 40 000 est celui que l'on trouve dans les chroniques arabes. Le conquérant arabe rapporte au calife, à sa très grande surprise, qu'il y aurait eu 40 000 juifs à Alexandrie, 40 000 juifs payant leurs taxes. En fait, il s'agit plus vraisemblablement de 4 000 foyers, dont on estime le contenu à 10 personnes environ.
Alors, plus près de nous encore, au début du XXe siècle, en 1900, on recense environ 25 000 juifs en Égypte. Ils jouent un rôle important dans le nationalisme égyptien et l'un d'eux, d'ailleurs, co-rédige la première constitution du pays dans les années 20. Peut-on dire qu'à cette époque, la communauté juive est totalement intégrée au paysage politique égyptien ?
Alors oui, absolument, c'est ce qui va caractériser la première moitié du XXe siècle, qui est vraiment un épisode très très symbolique et hautement emblématique de l'histoire de la communauté juive. Mais pour comprendre ce début du XXe siècle, si vous me permettez, je reviendrai brièvement sur le XIXe siècle. Le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, ou le célèbre Mohamed Ali, réforme en profondeur les structures politiques, sociales, éducatives en Égypte, et pour ce faire, se tourne vers l'Europe. Et à ce moment-là, de nombreux juifs vont saisir l'occasion pour s'installer dans la région. De nombreux juifs, qui donc résidant en Europe, vont s'installer dans la région tout au long du 19e siècle et enrichir la communauté déjà existante. Donc, à l'aube du 20e siècle, on a une communauté juive égyptienne qui est profondément hétéroclite. On a des juifs qui ont été arabisés depuis très longtemps. On a des séfarades, des maghrébins, c'est-à-dire des juifs qui, à l'origine, viennent d'Espagne, qui s'installent en Afrique du Nord et qui terminent en Égypte, qui sont arabisés à différents degrés, c'est-à-dire certains vont garder le ladino, d'autres vont être arabisés, et enfin des juifs en provenance d'Europe, qui ont la plupart du temps des nationalités européennes, ce qui arrange beaucoup les Européens, puisque ça leur permet d'avoir une mainmise économique sur la région. Et donc cela explique qu'il y a des grandes diversités au niveau des allégeances politiques au XXe siècle. Par exemple, on va avoir des juifs qui vont rejoindre le Parti communiste, c'est la célèbre figure de Henri Curiel. On a également des juifs qui vont devenir des fervents sionistes, et énormément de juifs, d'ailleurs, dont on parle peu, qui sont complètement apolitiques. Mais disons que dans tous les cas, tous se considèrent comme égyptiens, et dans certains cas, nationalistes. On a par exemple une très célèbre figure déjà à la fin du XIXe siècle, le journaliste d'origine italienne, Yacoub Sanour, qui fonde en 1877 une revue qui s'appelle Abu Nazara, dont le slogan est « L'Égypte aux Égyptiens ». Et d'ailleurs, il va être exilé par le gouvernement parce qu'il est considéré comme trop nationaliste. Une autre figure est effectivement, et ceci un peu plus tard, celle de Mourad Farag, qui est un avocat et journaliste, et fervent nationaliste égyptien. Il va s'affirmer pour l'unité nationale et il va collaborer effectivement à la rédaction de la Constitution égyptienne en 1923.
Alors, est-ce que l'apparition des frères musulmans dans les années 30 met un terme à cette influence, selon vous ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que la Société des Frères musulmans, qui est fondée en 1928 à Ismaïlia par Hassan el-Banna, reste très très largement marginalisée dans l'échiquier politique égyptien dès ses débuts. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui va évoluer principalement dans les milieux carcéraux et à l'étranger, mais très peu dans les sphères du gouvernement et dans les sphères du pouvoir en Égypte. En réalité, l'Égypte n'a pas besoin des frères musulmans pour mettre au ban la communauté juive à partir des années 1930, progressivement. En fait, il y a deux facteurs qui vont contribuer au rejet de la communauté juive à partir des années 30. Le premier facteur est le facteur évident de la question palestinienne. À partir des années 30, 1930, il y a déjà eu la déclaration Balfour de 1917. On en est à la quatrième ou cinquième alia, c'est-à-dire l'immigration juive d'Europe vers la Palestine. On a eu deux épisodes insurrectionnels des Palestiniens contre les sionistes ou contre les pionniers sionistes en 1929 et 1936. Et donc le sionisme est de plus en plus considéré comme une menace à l'autonomie de la région. Et donc par effet de ricochet, si vous voulez, les juifs égyptiens vont être tenus pour responsables de cette situation. Et le deuxième facteur, parallèlement donc à ce facteur du sionisme comme menace, les juifs sont, c'est un facteur en fait social, les juifs sont associés à cette bourgeoisie cosmopolite perçue comme cliente de l'impérialisme européen et qui éveille l'hostilité des classes inférieures, dont les frères musulmans, mais aussi des mouvements de tendance fasciste comme le mouvement Jeune Égypte, fondé en 1933. Donc, en somme, les frères musulmans ne sont pas un facteur déterminant dans la disparition des juifs d'Égypte. C'est plutôt le contexte international et régional et des problèmes sociaux inhérents à la société égyptienne qui vont aboutir au rejet et à la disparition à terme de la communauté.
Alors dans ces conditions, est-ce que le coup d'État de Nasser en 1956 joue un rôle important dans ce rejet de la communauté juive en Égypte ?
Oui, effectivement, la situation s'envenime déjà à partir de 1952, lorsque la monarchie est renversée par les officiers libres sous le leadership de Nasser, et en particulier à partir de 1956, au moment de la nationalisation du canal de Suez, qui aboutit à ce qu'on appelle la crise de Suez, ou encore, d'après la nomenclature égyptienne, l'agression tripartite d'Israël, la Grande-Bretagne et la France d'une part, contre l'Égypte d'autre part. Et donc, suite à cette crise de Suez, une politique de nationalisation et de confiscation des biens et avoirs étrangers a lieu donc en Égypte. Et donc, de nombreux juifs vont être victimes de cette politique de nationalisation. Et c'est là que les juifs connaissent l'épisode, en réalité, le plus traumatique de leur mémoire collective et, quelque part, son point de non-retour, puisque entre 1956 et 1958, entre 23 et 25 000 juifs vont quitter le territoire.
Et vers quelle destination, généralement, vont-ils ?
C'est-à-dire qu'elles se partagent généralement entre Israël, c'est la première destination après 1948, et autrement, plutôt vers l'Europe et les États-Unis. Généralement, les destinations se déterminent par rapport à la classe sociale. Dans les classes moyennes et pauvres, la première destination est l'État d'Israël, alors que dans les milieux plus privilégiés, principalement dans les milieux ashkénazes, le premier choix sera plutôt l'Europe et les États-Unis.
Aline Stapfer, la situation des Juifs d'Irak et de Syrie n'est pas meilleure. Il serait une poignée à Bagdad et une seule synagogue fonctionnerait à Damas. C'est l'information que vous avez ?
Oui, absolument. C'est vrai que les membres des communautés juives et syriennes et irakiennes sont particulièrement discrètes en ce moment. Mes collègues historiens irakiens qui travaillent sur la communauté juive à Bagdad ont essayé de rencontrer ces membres, mais bien sûr, ils veulent avant tout rester anonymes. Mais effectivement, on les compte dans les deux cas sur les doigts d'une main.
Merci Aline Stapfer, maître assistante à l'Université suisse de Genève, observatrice des nationalismes et aussi de la présence des juifs dans les pays arabes.
Merci beaucoup.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour Michel.
Bonjour. Orient.
Alexandre, Gaza fait naturellement la une de la presse arabe. Des journaux qui condamnent unanimement Israël, mais des journaux qui s'interrogent aussi sur le Hamas.
Oui, et des titres comme massacre, boucherie, génocide reviennent le plus souvent sur les pages des journaux. Mais justement, des journaux qui s'en prennent aussi à ce qu'ils considèrent comme l'indifférence internationale, avec un dessin dans Al-Haya, on voit un immeuble intitulé Proche-Orient qui brûle et des pompiers qui tiennent un tuyau d'incendie, mais au lieu de l'eau qui sort du tuyau, c'est un drapeau sur lequel il y a écrit « eau ». donc en quelque sorte la farce pour enfants. Et puis il y a le Hamas qui n'échappe pas aux critiques. Quelques exemples de titres d'éditoriaux: le Hamas fournit les munitions à l'extrême droite israélienne, ou du besoin d'avoir le Hamas pour Netanyahou. La presse du Caire, elle, accuse l'organisation islamiste de faire passer l'idéologie avant l'intérêt national palestinien, puisque, selon elle, le Hamas rejette aujourd'hui une initiative égyptienne qui est la même que celle des frères musulmans en 2012, une initiative que le Hamas avait acceptée.
La presse israélienne, Michel Paul, titre évidemment sur l'offensive terrestre à Gaza.
C'est même l'essentiel de la presse de ce vendredi, l'opération terrestre à Gaza, avec de très nombreux commentaires. Ras-le-bol, affirme un éditorialiste d'Israël Hayom, le journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou. Il faut en finir avec les tirs de roquettes. Eric, c'est le ton général. Un commentateur parle d'éradiquer ce qu'il qualifie de roulette du terrorisme. L'éditorialiste du Yediot Aharonot affirme qu'il s'agit d'une opération chirurgicale. Une pointe d'humour noir, c'est le cas de le dire, dans cet autre commentaire dans le même journal. On voit le bout du tunnel. Un spécialiste des affaires militaires estime, lui, que toutes les options sont ouvertes, opération limitée ou alors jusqu'à la réoccupation complète de la Banque de Gaza. Marie fait remarquer que c'est la décision la plus grave prise par Benjamin Netanyahou. Le problème, dit l'éditorialiste, c'est qu'il a été entraîné par l'aile droite de son propre parti. L'opération à Gaza n'était pas le premier choix du Premier ministre israélien. Haaretz remarque que les morts à Gaza ne provoquent pas de véritables soulèvements en Cisjordanie. Un chroniqueur du journal pense que l'opération militaire dresse les lignes du futur Proche-Orient. Et un autre commentateur estime que la véritable bataille pour Netanyahou aura lieu au sein de son parti à la fin des hostilités.
Et puis Michel, vous nous signalez un article pas tout à fait comme les autres.
Oui, vous l'avez vu, Eric, la presse israélienne, comme toujours en temps de conflit, se mobilise et brandit son patriotisme à contre-courant, comme toujours. Gideon Levy, le chroniqueur du Haaretz, qui s'adresse aux pilotes de l'aviation israélienne qui bombarde tout ce qui bouge à Gaza comme s'il maniait le joystick d'une console de jeu. Aucun d'entre eux ne refusera de prendre part à cet escadron de la mort. Aucun, affirme Levy. Un article qui a eu un grand retentissement en Israël. Et depuis hier, Haaretz a muni Gideon Levy d'un garde du corps après les nombreuses menaces qu'il a reçues.
Et puis dans les journaux israéliens, Michel, également l'inculpation des assassins d'un adolescent palestinien qui a contribué à mettre le feu aux poudres.
La presse reconstitue les dernières heures de Mohamed Aboukhdir et donne les détails sur les assassins. Un colon israélien de 29 ans et ses deux neveux, âgés de 16 ans. Mais les journaux ne publient pas leur identité, interdite à la publication à ce stade sur ordre de la justice. Partout, on cite la déclaration du procureur général, un crime abject et raciste, commis uniquement parce que la victime était arabe.
Alexandre Boutchanti, des éditorialistes reviennent sur la réinvestiture de Bachar al-Assad en Syrie.
Oui, et pour les journaux, c'est une mascarade qui a été oubliée du fait des événements à Gaza. Et de nombreux éditorialistes s'en prennent aussi à l'opposition syrienne qui, selon eux, du fait de ces divisions, a laissé la part belle aux extrémistes musulmans. Une opposition qui pourrait, selon plusieurs journaux, être coincée à l'étranger du fait de la décision de Damas de changer les formats de passeport syrien.
Et puis plusieurs journaux arabes accordent une large place à l'attaque meurtrière contre les militaires tunisiens à la frontière avec l'Algérie.
Oui, des journaux qui accusent Al-Qaïda et les extrémistes musulmans en général d'avoir profité du jeûne du Ramadan pour multiplier les actions terroristes. Mais d'autres journaux parlent déjà de l'arrivée de l'État islamique, ou Daesh en arabe, dans la région. Ils mettent en garde contre les tentatives de déstabiliser la Tunisie et même l'Algérie dans l'objectif de les faire sombrer dans le chaos que connaît par exemple la Libye voisine.
On conclut cette revue de presse régionale, Michel Paul, avec votre photo du jour.
Des photos de guerre, des photos d'horreur, mais celle qui revient le plus souvent, c'est bien sûr celle des enfants tués sur la plage de Gaza.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.